Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler pourquoi l'iPad ne sera jamais un Mac et il y aura plein d'autres sujets tech. Nous sommes le 27 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que vous êtes prêts à démarrer ce matin. De quoi on va parler ce matin? On va regarder ça ensemble. Yep, oui, c'est bon. On commencera effectivement pourquoi il n'y aura probablement jamais macOS sur l'iPad, et ce n'est pas plus mal. Un article de Numérama, on parlera également des réseaux sociaux, la vague Clubhouse est-elle en train de retomber? Le Clubhouse est-il en train de se vider? On parlera d'Apple qui va investir 430 milliards de dollars aux États-Unis, hein, pas en France, dans les 5 prochaines années. On parlera également de « Vous n'aurez peut-être plus jamais besoin de prononcer « OK Google ». Désolé, je l'ai déclenché chez tout le monde. Je m'étais dit, il faut pas que tu le dises. Et tu l'as dit. Voilà, c'est fait. On parlera de nos merveilleux sponsors. Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Et également Express VPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et on terminera avec une grande tartine. Article que j'ai trouvé intéressant, même si je suis pas d'accord avec tout. Qui s'appelle, en fait, tout le monde s'en fout de ses données personnelles. Vous verrez, ça sera intéressant d'en discuter ensemble en fin d'émission. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Je voudrais déjà remercier BS Blang pour son 6 mois, V-Barge pour son 7 mois. Merci beaucoup à vous et on lance tout de suite le Kawa. Merci également à Hélène JJJ pour son 7 mois et Babas pour ton 4 mois. J'ai juste encore oublié de faire un petit truc. Attendez, j'ouvre ça. Hop, il faut que je prenne le réflexe. Voilà, c'est bon. Oreillette enclenchée pour la modération. Merci, bah, du coup je tourne la tête et hop, merci pour ton prime, Lulucy pour ton 2e mois, merci beaucoup à toi. On commence, on va commencer par Apple. C'est une chose qu'on disait pendant la keynote avec Brandon et Guillaume, le nouvel iPad Pro, par un jeu de passe-passe, a un processeur M1. Moi, je pensais que c'était déjà un M1. Bon, globalement, bref. Ils ont mis le même processeur que dans les Mac, dans l'iPad. Ça y est, on y est. Même processeur. Du coup, on a eu cette réaction spontanée. Pourquoi ils ne mettraient pas macOS sur l'iPad? Alors, moi, je connais déjà la réponse. Et même, dans mes différents tests de l'iPad, et notamment mon test de l'iPad de l'année dernière... Je disais pourquoi ça marcherait pas à macOS sur un iPad et que je pensais même que c'était une mauvaise chose et qu'à trop rapprocher l'iPad d'un ordinateur, Apple risquait de se perdre. C'est ma crainte. Pourquoi? Parce que j'aime énormément mon iPad et je n'ai pas envie que mon iPad devienne un Mac. Mais je comprends que pour certains d'entre vous, pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas macOS sur son iPad, vu qu'on a le même processeur? On a des explications. On a des explications qui sont données par Apple. Effectivement, le nouvel iPad Pro présenté par Apple le 20 avril 2021 marque une rupture avec l'arrivée de la technologie mini LED, ça c'est une chose, mais aussi philosophiquement parlant avec l'intégration de la puce Apple M1, rapprochant un peu plus la tablette des ordinateurs dernier cri de la marque. Mais n'espérez pas voir un jour macOS arriver sur iPad, officiellement en tout cas. Apple, il semble assez hostile. Pourquoi Apple serait hostile à un espèce de merge entre un mix entre macOS et iPadOS? D'après deux responsables d'Apple, et je les cite, il y a un camp qui pense que l'iPad et les Mac sont en guerre l'un avec l'autre. Et un autre qui pense qu'il existe un grand complot destiné à les faire fusionner sur une même plateforme. La réalité, c'est qu'aucun des deux parties n'a raison. Balaye Greg Joswiak, vice-président du marketing chez Apple. Le bon outil au bon moment. C'est toujours la même personne qui parle. C'est ça la philosophie Apple. La majorité des utilisateurs et utilisatrices de Mac ont aussi un iPad. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité dans les chiffres que Apple a. Les gens qui ont un Mac ont souvent un iPad. Et l'iPad est vraiment, de plus en plus d'ailleurs, construit comme un produit complémentaire au Mac. Il y a beaucoup de similitudes, mais on fait pas les choses de la même façon sur un Mac, sur un PC. Si vous avez pas sur un iPad ou sur un Mac, qui est un PC d'ailleurs. Ceux qui travaillent pas avec un iPad comprennent pas forcément. Parce que, vu de loin, on se dit, bah, c'est de l'informatique. On ouvre un tableur, on ouvre un traitement de texte, on retouche des photos. Qu'on fasse ça au souris ou au touch, c'est qu'une question de pointeur. Non. En fait, vraiment non. À l'usage, vraiment, vraiment non. Et d'ailleurs, Windows 8, souvenez-vous, Windows 8, c'est ce que Microsoft a voulu faire. Je vais pas dire que c'est complètement raté. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas été convaincu par l'aspect, ça marche aussi bien en touch qu'à la souris. De Windows 8, des tuiles et tout ça. Qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Windows 10 est l'héritage de Windows 8. Je sais pas vous. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on peut avoir une interface qui marche aussi bien à la souris qu'au touch? Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont là, l'iPad, maintenant, on peut tout à fait l'utiliser à la souris. Mais vous avez remarqué que l'utilisation de la souris sur un iPad, elle est bien particulière. C'est pas une flèche qui apparaît et c'est pas pour rien. C'est en fait une simulation du touch avec la souris. Si tu peux le dire que Windows 8 est complètement raté. Non, pour moi, Windows 8 n'est pas raté. C'est plus d'essayer de faire une interface qui fait tout. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à... Déjà, Windows détecte l'environnement et s'adapte tablette, PC. Oui, mais alors moi, tous les tests que j'ai faits, ça s'adapte, mais pas toujours très bien. Et les logiciels ne sont pas adaptés forcément. Donc, c'est l'expérience que moi, j'ai eue avec la Surface. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu de Surface dans les mains depuis au moins un an. Mais avec la Surface... J'avais constamment un peu l'impression de me faire engueuler parce que je faisais pas la bonne chose au bon moment. Oula, non, non, non. Ça, il faut que tu sois en mode ordinateur. Ça, il faut que tu sois en mode tablette. Ça va. Et puis alors, les menus sont tout petits, là, en mode tablette. Donc, il faudrait que je le reclippe. C'est l'impression que moi, j'ai. Si vous êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à le dire. Hein. Pourquoi vendre un produit quand on peut en vendre deux? Ça, effectivement, on peut avoir cette vision-là. Hein. Est-ce que Apple ne chercherait pas à vendre plus de produits en ne rendant pas ses Macs des iPads et ses iPads des Macs? Personnellement, je pense pas qu'on peut résumer à ça, parce que je pourrais te rétorquer pourquoi vendre deux produits alors qu'on peut en vendre qu'un qui fait les deux et qu'on vendrait deux fois plus cher. Pas un problème. Je verrai deux systèmes différents, mais le même système... Oh là, je sais pas pourquoi. Je verrai deux systèmes différents, mais le même système, dans le fond, les noms resteraient sûrement différents, mon avis. L'erreur de Windows 8, c'est d'enlever le menu démarrer. Je pense pas que c'est la seule erreur de Windows 8, mais... Windows n'est pas adapté au format tablette, macOS en fait... Tout simplement, iPadOS est bien mieux foutu. Ça dépend des applications. Certaines applications marchent mieux en tactile et inversement. Tout à fait. Et Apple veut cultiver cette différence entre l'iPad et le Mac. Même si de plus en plus de passerelles sont créées entre les deux. Ça, je suis d'accord. Et que même dans l'absolu, il est plus facile Pour moi, il est plus facile de faire fonctionner une interface tactile sur un ordinateur avec une souris et un clavier que l'inverse, en fait. Pour des questions de taille, pour des questions d'ergonomie, un doigt, c'est beaucoup plus... Même un stylet, c'est pas du tout la même interface qu'une souris, en fait. Et je pense que... Alors, moi, je pense qu'on a... Nous, les technophiles, on a toujours envie d'un produit qui fait tout. C'est une envie... C'est pour ça qu'on s'enthousiasme beaucoup pour les couteaux suisses. Ah, j'ai un truc, regarde, ça fait ça, et puis je peux faire ça. Et là, en faisant ça, tac, 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 hop, transformeur. Je pense que c'est le côté transformeur qui nous fascine, en fait, en technologie. Mais à l'usage, je sais pas, mais moi, globalement, à part un couteau suisse, il y a quelques couteaux suisses numériques qui m'ont convaincu, mais généralement, quelque chose qui fait tout un peu moyen, comme un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est un produit excellent, mais c'est pas le meilleur des couteaux, c'est pas le meilleur des tire-bouchons, c'est pas le meilleur décapsuleur au monde. Ça fait tout. On a tout, ça c'est cool, mais c'est pas le meilleur. Et je pense, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je pense que nous, les technophiles, on a une véritable fascination pour les transformeurs et on a toujours envie qu'on ait un produit qui fasse tout et qui soit excellent en tout en plus. Bon en tout, expert en rien, tout à fait. Chaque produit a un profil, un usage. Et alors moi, c'est mon expérience personnelle hein, de l'iPad. L'iPad, je l'utilise vraiment pas comme un deuxième écran. C'est-à-dire, je le relie pas à mon Mac pour utiliser l'écran de mon iPad comme un deuxième écran. Je l'ai fait pour des tests. Je l'ai fait. Sidecar, ça marche très bien. Mais c'est pas là où l'iPad m'est le plus utile. D'abord, bon, moi, j'ai un fonctionnement particulier. C'est que l'iPad, c'est 80% de mon boulot. 20% de mon boulot, maintenant, c'est sur le Mac. J'ai encore besoin du Mac. Notamment pour ce qui est de la retouche de montage, que je pourrais pas faire sur iPad, parce que déjà, il n'y a pas Final Cut sur iPad, même si LumaFusion est très bien. Voilà, peut-être qu'un jour, on passera à LumaFusion sur les Mac, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, notre workflow, il est en Final Cut. Et en fait, j'utilise vraiment très, très souvent, de plus en plus souvent, les deux de concert. Alors, pas... une main sur mon truc simultanément, mais je switch constamment à l'autre. Comme j'ai continuité qui me permet de faire des copier-coller entre l'un et l'autre, d'envoyer des fichiers par AirDrop sans problème. Maintenant, vu que on utilise nous énormément le cloud, on a plusieurs clouds différents, on a du iCloud, on a du G-Drive et tout. Tout est accessible sur les deux machines, tous mes fichiers. Et je vais constamment switcher, en fait, entre les deux. Et en plus, je pense que cette vision de dire il faut un appareil qui fasse à la fois tablette, à la fois ordinateur, c'est une vision de certains métiers qui utilisent l'informatique. Un des apports, je pense, de la tablette, je ne parle pas que de l'iPad, mais de la tablette en général, c'est d'avoir amené l'informatique à d'autres corps de métier qui n'avaient pas l'informatique et de l'avoir simplifié pour certains corps de métier. Pensez à toutes les personnes qui travaillent sur des chantiers, qui travaillent en extérieur, qui travaillent debout. Moi, je le vois chez Albert, là, SOS Ciné, ils ont tous maintenant des iPads pour... voilà, avant, c'était un peu des feuilles papier, machin, etc. Ils ont, vous savez, les iPads avec un truc pour tenir derrière à la main. Comme ça, ils ont l'autre main libre. Hop, ils prennent les commandes, ils sont ultra mobiles. Donc, ça apporte l'informatique chez eux. S'il y avait un clavier qui devait se mettre derrière, machin, soufflet, même s'enlever... Je sais pas si le produit fonctionnerait aussi bien. Et je pense que c'est ce que... Alors, ok, je suis un Apple fanboy, mais je pense que c'est ce que Apple a compris. Que d'abord, l'informatique était de moins en moins réservée aux informaticiens et aux développeurs. Que l'informatique ne doit plus être de l'informatique, en fait. et que les gens ont besoin d'objets qui s'adaptent à leur manière de travailler. Moi, je vous ai donné l'exemple de ma manière de travailler. 80% iPad, 20% ordinateur. J'ai encore besoin de l'ordinateur. Mais il y a d'autres personnes, ça va être 20% l'iPad, 80% l'ordinateur. D'autres personnes, ça va être 100% l'ordinateur. Ils ont absolument pas besoin d'un iPad, sauf peut-être pour regarder Netflix. Là, pour l'instant, je vous parle de travail. Hein. On n'est pas en train de parler de l'informatique de divertissement ou ce genre de trucs. Je parle d'outils informatiques. D'autres gens, ça va être 100% tablette. Il y a aujourd'hui des métiers qui n'ont absolument plus besoin d'un ordinateur. Et c'est pour ça qu'Apple ne veut pas faire un produit qui fait les deux, ni un OS qui fait les deux. Et j'avoue que moi, je serais assez furieux si au forceps, on faisait rentrer iPadOS sur mon Mac, puisqu'il y a des choses que j'adore sur mon Mac, ou qu'on fasse rentrer de force macOS sur mon iPad. J'aimerais pas du tout. Même en option, en fait, ça ne m'intéresse pas. Merci Flo645 pour ton Prime, merci Taille du Can pour ton Prime également au premier mois, bienvenue à toi. 50-50 pour toi, sauf que Apple n'a pas du tout une politique de gestion globale de device. Je crois que les iPads, il y a des trucs quand même pour les gérer en flotte d'entreprise hein, maintenant. Hein. C'est peut-être pas parfait, mais... Pourquoi pas de gestion multi-user sur iPadOS ? J'avoue que ça, c'est un gros manque. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi, Dave. Merci, Baxo, Baxo Xv, pour ton Prime. Premier Prime, bienvenue à toi. Merci beaucoup. On enregistre les propos, on les ressortira dans 5 ans, lol. Si tu veux, pas de problème. En tout cas, Apple, pour l'instant... et d'ailleurs, je cite toujours John Ternus, maintenant le vice-président de l'ingénierie matérielle chez Apple. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, on ne pense jamais qu'il ne faut pas faire sur un iPad pour éviter d'empiéter sur le Mac ou vice-versa. Certaines personnes travailleront sur les deux. D'autres utiliseront une machine plutôt que l'autre parce qu'elle correspond mieux à leurs besoins. C'est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, c'est pas dans les intentions d'Apple. Alors, peut-être qu'ils nous dissimulent un produit, un Apple magique, une pomme magique qui fera tout, vendu 3 fois plus cher qu'un iPad et un... C'est un peu le problème, moi, que j'avais dit, en tout cas avec les premières surfaces. C'est que les surfaces n'ont pas divisé, n'ont pas fait la soustraction du prix d'une tablette avec un PC. C'est que c'est l'addition d'une tablette plus un PC. Donc les arguments que Apple a tout intérêt à vendre 2 produits plus qu'un, ça tient pas si on parle du prix en fait. Si c'est pour nous sortir un produit hybride qui sera le prix d'un MacBook Pro plus un iPad Pro, non. Le pire, c'est que le multi-user sur iPad existe... mais uniquement pour l'éducation. Tout à fait. Et géré par Apple, ouais. T'as essayé Photoshop sur iPad, pas du tout au point, il manque tellement de choses. Je pense que... Alors, je n'utilise pas forcément Photoshop sur... Je pense qu'on fait une erreur en pensant qu'un produit va remplacer l'autre. Je sais, hein, là, j'ai le luxe de vous parler en ayant les deux. Et il y a des gens qui vont me dire, t'es gentil Jérôme, mais moi j'ai pas le budget pour m'acheter un iPad Pro plus un MacBook Pro. J'entends. Mais c'est là où vous allez devoir porter votre choix. Qu'est-ce que vous faites le plus? Pour moi, l'iPad, notamment avec son stylet, et je prends l'exemple de Photoshop, va être idéal pour faire de la retouche sur le terrain. Des petites choses. Retoucher la chromie, envoyer directement au client. Mais le travail de précision de Photoshop, je le ferai plutôt sur mon ordinateur. Donc, j'utilise plutôt l'iPad comme un objet... C'est pas forcément un brouillon, mais un objet, on va dire, d'esquisse rapide, portable à la main, que je peux travailler debout. Et quand j'ai besoin de faire un travail plus posé, assis sur mon siège, longtemps, un travail de précision, je reviens sur mon Mac. Donc, Donc, comme me dit Ogre des Collines, t'es gentil, Jérôme, mais moi, j'ai pas le budget pour m'acheter un MacBook Pro et un iPad Pro. Très, très bonne question. Fais des économies, Ogre des Collines. Non, je pense que c'est à vous de faire un cahier des charges. Et ça, je vais vous l'expliquer, je pense, bientôt dans une vidéo, comment on fait un cahier des charges avant d'acheter. Soyez pro dans vos achats. De quoi j'ai besoin? Quelles sont mes priorités? Quel est le travail que j'ai à fournir? Et ce n'est qu'avec un petit cahier des charges, et c'est vite fait, un cahier des charges. Ce n'est qu'avec un cahier des charges que vous vous défendrez efficacement contre le marketing hypnotique des marques. C'est-à-dire le marketing hypnotique des marques vous fait croire que vous avez besoin de tout, que vous avez besoin d'un écran mini LED, sinon vous allez être un homme malheureux qui ne pourra pas retoucher ses photos en plein soleil dans le désert. Que vous avez absolument besoin de la puissance d'un M1, parce que sinon vous serez un homme ou une femme malheureuse, parce que vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour jouer au dernier jeu à la mode. Le marketing veut dire, vous avez absolument besoin de notre clavier à 300€, parce que sinon vous utiliserez mal votre iPad. Vous avez absolument, ça c'est le marketing, le côté hypnotique du marketing, qui vous fait croire que vous avez besoin de tout. Vous avez besoin de tout faire. Eh ben, pour combattre l'hypnose du marketing, un cahier des charges. Ah oui, ça paraît chiant hein, de faire un cahier des charges pour un achat aussi fun. Ben ouais, mais justement, un achat ne doit pas être fun. Un achat aussi... Pour moi, un achat de plus de 1 000€, de plus de 1 000€, à moins de se faire vraiment plaisir un jour, mais un achat de plus de 1 000€, même de plus de 500€, doit être un achat réfléchi. On est des acteurs consommateurs responsables. Donc, on se fait un petit cahier des charges. Quels sont mes prios? On classe ses priorités. Qu'est-ce que je fais le plus dans mon boulot? De quoi j'en ai besoin? Est-ce que la prise de notes manuelle est importante pour moi? À ce moment-là, il me faudra plutôt un iPad. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de faire certaines choses sur ordinateur. Ça sera plutôt un MacBook Pro. C'est comme ça qu'il faut acheter. Les applications seront-elles toutes compatibles entre macOS et iPadOS avec l'architecture ARM? En tout cas, du côté Mac, on pourra... Alors ça, c'est les développeurs qui décideront. Sur papier, toute application peut être compatible. En tout cas, sur ton Mac, tu pourras faire tourner toutes tes applications iPhone ou iPad. Mais après, c'est les devs qui décident. Merci Sylvain pour ton sub. Premier sub, merci à toi. Bon, c'est pas tout de suite le M1 alors. Bah, on vous le dit hein, dans cette émission, on est des rabat-joie. Hein. De toute façon, c'est notre rôle. Achetez quand vous avez besoin, faites attention à vos envies. Vos envies ne sont pas des bonnes conseillères d'achat. Vos besoins, oui. Et il faut arriver à différencier les deux. Et seul un cahier des charges vous permettra de le faire. Si tu as un cahier des charges qui te fait dire « il me faut un ordinateur qui fait aussi tablette », tu n'es peut-être pas dans le bon univers. Il te faut peut-être une Surface. Il faut aussi ouvrir sa chakra à ça. Hein. En gros, pour résumer mon article... Apple n'a pas l'intention de faire une Surface. Je sais que certains qui n'ont pas d'iPad ni de et qui voient ça de loin et vont dire mais ils font un peu la même chose. Je peux vous dire fondamentalement pour avoir déjà utilisé une Surface, un iPad et un Mac, ils sont pas en train de faire la même chose. Ils font de plus en plus de passerelles, mais ils sont pas en train de faire la même chose. Ah, mais c'est sûr que c'est pas facile, l'hyponomie, de trier entre un vrai besoin et une envie. Les envies sont pressantes. En gros, je retiens une analogie qui m'a frappé l'autre jour. C'est un peu comme faire pipi. Tu peux avoir besoin de faire pipi. Quand t'as besoin de faire pipi, ça commence à te titiller. Mais quand t'as besoin de faire pipi, il faut y aller. Voilà. Merci pour ton sub, alors que j'étais en train de parler de pipi, Jinaye. Merci pour ton sub niveau 1, deuxième mois d'abonnement. Allez, on continue, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est intéressant, parce que je sais que c'est un débat qui nous anime. On va parler un petit peu de la vague Clubhouse. Est-ce que la vague Clubhouse est en train de retomber? Est-ce que les heureux privilégiés du Clubhouse sont en train de l'abandonner? C'est pas facile, c'est pas facile. Clubhouse est une des applications qui a grandi le plus vite cette année. Elle fête ce mois-ci sa première année d'existence. Coqueluche des réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a entendu parler de Clubhouse de partout, avec 10 millions d'utilisateurs dans le monde, alors que l'application était fermée uniquement sur invitation. C'est quand même pas mal, 10 millions d'utilisateurs. L'application de conversation audio a rapidement été copiée par des géants comme Facebook, Twitter et même Spotify. Problématique récurrente d'un réseau social, trouver un modèle économique viable, ce qu'ils n'ont pas encore trouvé, continuer d'attirer les utilisateurs ou encore modérer les contenus. Les contenus. L'application, si certains ne la connaissent pas, Clubhouse permet uniquement d'écouter, de participer à des discussions en direct, en audio, à plusieurs, dans des chambres virtuelles. Uniquement accessible sur invitation et sur iOS, hein, ils n'ont pas encore sorti la version Android. Elle a très rapidement attiré les utilisateurs à tel point que les fameuses invitations, limitées au nombre de deux par compte, putain, je savais pas qu'elles se revendaient, j'aurais pu me faire de la maille, de la moula. Pourquoi mon article a disparu? What the fuck? Voilà, c'est bon. Jusqu'à $60 les invitations sur eBay. J'aurais pas payé pour une invitation Clubhouse. À vrai dire, j'étais un gros chien. J'ai été invité sur Clubhouse dès le début. Je crois que j'ai ouvert mon compte. Oui, j'ai ouvert mon compte. Je l'ai jamais utilisé depuis et j'ai pas du tout filé mes invitations. Allez-y, lancez-moi des graviers. Ouais, c'est pas mal. 10 millions uniquement sur iOS et uniquement par invitation. Pour certains, pourtant, il y a vraiment des réserves par rapport à Clubhouse. Un investisseur dit notamment que Clubhouse est tombé au bon endroit, au bon moment, pour exploser rapidement. Mais pour lui, l'année 2020 est une année très particulière. Et notamment avec les confinements, le temps passé sur les réseaux sociaux a augmenté. Et l'audio, qui est un peu un ancien format, très peu utilisé jusqu'ici, permettent, et les conversations, c'est une chose qui nous manquait pendant ce confinement. Et selon certains analystes, et ça c'est la première raison du tassement de Clubhouse, c'est qu'à fur et à mesure, si les déconfinements se poursuivent, imaginons une issue heureuse de tout ça, heureuse et rapide, les pays vont petit à petit se déconfiner, est-ce que on va retrouver les discussions entre potes, aller au bar, machin, etc. Est-ce qu'on aura besoin de Clubhouse? Certains en doutent. Certains en doutent. Mais ce n'est pas le seul problème. Il faut savoir qu'actuellement, Clubhouse est valorisé à $4 milliards, ce qui est énorme. En janvier, ils étaient qu'à $1 milliard. Mais, après un an de croissance fulgurante, l'application a vu ses téléchargements chuter de 72%. Entre février et mars, passant de 9,5 millions de téléchargements mensuels à seulement 2,7 millions, selon le cabinet d'études SensorPower. La plateforme est maintenant presque revenue à son niveau de téléchargement de janvier, quand elle commençait à peine à se faire connaître auprès du grand public. Le soufflet est en train de retomber car le principe de l'invitation reste une barrière très forte à l'entrée et l'application n'est pas disponible sur Android, le premier système d'exploitation mobile au monde, explique Daniel Lanzersman. Pour l'instant, Clubhouse se limite à un microcosme. La prochaine étape serait d'adopter un positionnement mainstream pour s'ouvrir au grand public. Alors, c'est ce qu'on peut se dire. Quand il n'y aura plus d'invitation et que ça sera sur Android, a priori, ça devrait pas tarder sur Android, là, waouh, ça va être retour du succès et tout le monde va vouloir aller sur Clubhouse. Là, c'est une analyse particulière de Jérôme Kenborg. Je suis pas sûr. Parce que c'était peut-être le côté happy few, comme on dit en anglais, Clubhouse. On est entre nous, décideurs, il y avait des gens puissants, des gens qui se connaissaient. Il y avait un côté sérail, les gens de Clubhouse. Moi qui n'allais pas du tout sur Clubhouse, j'avais des échos de gens qui utilisaient Clubhouse, qui me disaient « Oui, il y a tel ou tel entrepreneur en France qui est un peu le maître de Clubhouse. Dès qu'il fait des petites conférences, tout le monde y va. J'apprends plein de choses parce que j'ai pu discuter avec quelqu'un de très haut placé, chez quelqu'un, etc. » Il y a un côté vraiment... Je pense que, entre guillemets, les décideurs ou les influenceurs ont besoin... et ne trouvent pas actuellement de refuge. Pour des gens qui ont une forte visibilité, une grande popularité, qui sont connus de beaucoup de monde, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on bosse, donc on poste des trucs parce que notre communauté veut des trucs, mais on commence à avoir un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous font vivre. Mais en même temps, quand moi je sais que voilà, quand j'ai besoin de souffler, c'est pendant un week-end, je regarde plus du tout les réseaux sociaux parce que c'est du boulot et c'est beaucoup de tension pour les décideurs, les influenceurs, les gens un peu connus. On a très peur en fait des réseaux sociaux. Je vais pas vous le cacher. On sait que n'importe qui peut être dans la sauce en quelques secondes et tout perdre sur les réseaux sociaux. Donc ça engendre un stress. La fameuse rançon de la gloire est devenue un peu le couperet des célébrités. Qui va être la prochaine tête tranchée par le tribunal populaire des réseaux sociaux? C'est un vrai stress. Ça peut vous paraître bizarre vu de loin, mais essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui voilà, est influent, on va dire. On le voit, la célébrité, la puissance, machin et tout ça est devenue extrêmement fragile avec les réseaux sociaux. Dans certains cas, c'est une très bonne chose. Hein. Je ne suis pas en train de dire « oulala, c'est dangereux ». Pour certains cas, c'est très bien. Mais ça rend l'exercice des réseaux sociaux un peu délicat, on va dire, et nerveusement éprouvant. Et c'est pour ça que je pense que Clubhouse doit une partie de son succès, que certains se sont retrouvés dans des petits clubs privés, en fait. Un peu VIP room. C'est le côté privilégié qui a fait la hype. Tout à fait, ouais. Alors, encore une fois, hein, moi, j'allais pas sur Clubhouse. Je me suis rapidement dit, si on s'y met, nous, on va s'y investir, on va créer des émissions et tout. Actuellement, on a tellement d'autres choses à faire et on manque vraiment de temps pour tout faire. On va pas aller... Justement, j'ai un peu lutté contre notre fameuse « fear of missing out ». Cette peur de manquer... Je me suis dit, écoute, si Clubhouse, ça prend vraiment, on s'en occupera dans 2 ans, voilà, on fera quelque chose, on sera en retard, c'est pas grave. Mais n'investissons pas de l'énergie au départ de Clubhouse, quoi. Je pense que c'est comme OnePlus au début, avec seulement des invitations, pouvoir les acheter. Pour... Oui, ça crée l'hype. Bon, on verra. On verra en tout cas pour Clubhouse qu'est-ce qui les attend, comment ils vont se faire manger derrière. On continue. Est-ce qu'ils vont se faire manger? Je dis pas que Clubhouse est complètement foutu. J'ai oublié de parler de 2 aspects. Ouais, je vais un peu vite sur mes articles. Enfin, ils ont 2 autres gros problèmes, Clubhouse. La modération. La modération sur du live vocal, c'est impossible à faire. Tu peux pas modérer ce que les gens vont dire à la fraction de seconde où ils le disent. Tu peux modérer un replay, tu peux enlever des trucs après. Dans une chat, vous l'avez vu, dans une chat room, vous pouvez vous faire modérer parce que vous utilisez des mots. Et nous, il y a des mots clés, paf, vous prenez un ban temporaire quand vous utilisez certains mots. Ça, c'est faisable. La modération. Et il y a déjà des très mauvaises histoires hein, sur Clubhouse, des gens qui se sont vraiment lâchés en vocal, impossible de les modérer. Donc ça c'est un gros problème aussi qu'ils ont Clubhouse, qui amène aussi à un autre problème, c'est la monétisation, comment ils vont vivre Parce que pour l'instant, ils n'ont pas de business model Clubhouse. Alors, est-ce qu'ils vont rendre certaines discussions payantes? Est-ce qu'il y aura un abonnement? Est-ce qu'il y aura de la pub? Est-ce que... Et pourquoi ils ont besoin d'argent? Bah déjà, pour survivre eux, payer voilà les serveurs, machin, etc., les employés. Mais là où ils ont encore plus besoin d'argent, c'est pour garder les célébrités, les décideurs, entre guillemets, les influents. C'est ces gens-là qui font et défont la popularité de tel ou tel réseau social. C'est peut-être énervant, hein. Je comprends que certains soient irrités par le côté influenceur, décideur. Non, mais tu te prends pour qui, quoi? Je parle juste de fait. Je m'intègre pas dedans, hein. Mais voilà, c'est la réalité des faits. Et ils vont avoir besoin de les payer, parce qu'aujourd'hui, bah, les créateurs de contenu, en tout cas, ils veulent pas avoir le problème que Vine a eu. Vine a eu énormément de succès, mais n'a pas trouvé son business model, et du coup, les créateurs sont partis sur YouTube, qui promettaient une bien meilleure rémunération de leur travail. Donc il y a un moment, pour l'instant, Clubhouse, c'est sympa, c'est nouveau, on s'éclate, on est entre amis, on se tape du bide et tout. Mais demain, n'importe quel créateur de contenu va dire, attends, je passe 5 heures par semaine sur Clubhouse à faire des discussions, elle est où ma rentabilité là en termes de... Et j'en ai pas. Alors, pour certains... Si, parce que ça permet de vendre du job à côté, etc. Là où je pense qu'ils vont avoir un problème, c'est que s'ils attirent des sponsors des émissions dans de l'audio, je suis pas sûr que ça puisse convaincre les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu ont pris l'habitude de gérer leurs sponsors en direct. Et ils n'ont pas forcément envie d'avoir Clubhouse en intermédiaire, en fait. Pas de replay, en fait. Oui, je n'ai pas parlé de la mise à jour d'iOS. On en a déjà beaucoup parlé, Megadub, de la mise à jour 14.5. Donc non, je n'ai pas mis d'article là-dessus. En effet, les influenceurs sont parfois très mauvais et mal informés, donnant une mauvaise image à ceux qui font très bien leur métier. Oui, influenceur, c'est un mot large. On a la version péjorative et restreinte et la vision en tête de certains influenceurs. Ok, on s'est compris. J'ai fait une grimace hein, pour ceux qui m'écoutent en audio. Une moche grimace. Et le dernier problème pour Clubhouse, c'est évidemment qu'ils se sont fait beaucoup pomper le concept hein, par Twitter, par Facebook. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à tenir? On sait que Facebook a un peu quand même donné une grosse estocade à Snapchat en piquant les stories. Est-ce qu'ils vont y arriver en prenant les Clubhouse, les discussions Clubhouse? On le verra. Ils peuvent toujours recycler le truc pour les loges maçonniques, l'entre-soi. Oula, oui. Allez, on continue dans les articles. On va parler d'Apple. Apple qui va investir 430 milliards de dollars aux États-Unis dans les 5 prochaines années. Donc, c'est un peu Apple qui régale. Hein. Là, c'est... voilà, t'as les... Hein, 430 milliards de dollars d'investis, c'est pas mal. Apple vient d'annoncer qu'il accélère son programme d'investissement aux États-Unis. Apple va investir 430 milliards de dollars dans les 5 prochaines années à la création de 20 000 nouveaux emplois à travers le pays. Pour mémoire, en 2018, en plein air Trump, Apple avait annoncé un plan d'investissement de 350 milliards. Donc, ils ont rajouté 100 milliards à leur plan d'investissement. Apple entend investir des dizaines de milliards de dollars dans le développement de composants de nouvelle génération et d'innovation 5G dans les 9 États. La contribution de 430 milliards de dollars inclut, selon Apple, les dépenses auprès de fournisseurs américains, les investissements dans les centres de données, les dépenses en capital utilisées pour acheter des sociétés, entretenir des biens, etc. Aux États-Unis, elle inclut aussi des douzaines de productions Apple TV+, à travers 20 États qui créent des milliers d'emplois. Apple indique qu'il dépensera 1 milliard de dollars en Caroline du Nord pour la création d'un nouveau campus et d'un hub blog de recherche, renforcer sa présence dans le Research Triangle nord-américain, une zone virtuelle déterminée par trois grandes universités, celle de l'État de Caroline du Nord, celle de Caroline du Sud à Chapel Hill et celle de Duke. Ouais, il y a une faute de frappe dans l'article. L'objectif est en l'occurrence de créer 3000 nouveaux emplois dans le domaine de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie logicielle et des autres domaines de pointe. Bref, blablabla, blablabla. La Caroline du Nord ne sera pas la seule touchée par la grâce. Apple détaille rapidement ses ambitions pour d'autres sites et d'autres États, que ce soit en Californie, à San Diego, Colorado, dans le Massachusetts, dans la région de Boston, dans le Texas, à côté d'Austin. Voilà, ils investissent un peu de partout. Ceux qui se demandaient qu'est-ce que Apple va faire de son argent. On sait qu'Apple a énormément d'argent. Et ben maintenant, on le sait. Ils vont le réinvestir aux États-Unis. C'est grâce à Trump, ça se discute énormément, tout ça, mais si tu veux. Parce que l'usine que Trump avait inaugurée, elle existait déjà. Hein. Si on parle juste d'Apple, des rapports entre Apple et Trump. Donc, moi, je sais pas vous, mais quand j'ai lu ce truc, alors, plusieurs choses m'ont traversé l'esprit. Un, faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. J'entends beaucoup de gens dire les États-Unis, c'est fini, c'est la mort d'un empire, les Chinois vont les écraser, les États-Unis sont en train de disparaître, Trump était le Néron d'une Rome en train de brûler, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'argent, etc. On va dire que les États-Unis ont encore pas mal de ressources, déjà. La deuxième chose qui m'a traversé l'esprit, c'est putain que c'est dommage qu'on n'ait pas réussi en Europe à construire des entreprises de cette taille-là qui réinvestissent le fric dans l'économie européenne, quoi. C'est bien pour les États-Unis, je suis content pour les États-Unis, je suis un peu triste pour l'Europe, quoi. C'est pas de la faute d'Apple, hein. Apple reste une entreprise américaine. Quand on achète un iPhone, bah on achète un iPhone à une entreprise américaine et les bénéfices vont être réinvestis non pas dans notre pays, mais aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que Apple n'aura pas des investissements européens, mais pas les principaux en tout cas. Et c'est pas la faute d'Apple. Encore une fois, on va pas faire de l'anti-américanisme primaire où je n'achèterai que des smartphones français, parce que vous n'allez pas aller loin quand même. Ou je ne vais acheter que des smartphones européens. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que déjà des trucs 100% européens, mais vous me direz, un iPhone n'est pas 100% américain non plus. Mais bah, Wiko, c'est quand même très largement chinois, hein, quand même. Hein. Si Dieu veut, les États-Unis devraient assez vite s'effondrer. Sensiblement aussi vite que l'URSS. Ah, écoute, tu peux avoir ton analyse. Moi, je pense pas qu'il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La Chine a des problèmes immenses à résoudre avant de devenir un tel empire. Les États-Unis, le rayonnement culturel des États-Unis, il est encore immense. Hein. Vous regardez beaucoup de séries chinoises ? Je pose la question. Hein. Oui, je l'ai vu, le test de Tev ici Japon sur le Nokia. C'est pas de la bonne pub pour Nokia, ouais. Je milite pour un retour de Boule Zenith. Ah oui, c'est quoi le truc? Et Olivetti aussi, les ordinateurs italiens. Non, quand je dis que je suis triste pour la France, je suis triste pour l'Europe, c'est plutôt je suis triste qu'en Europe, on n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur des politiques technologiques On a des bons trucs, mais on a, voilà, il y a un Spotify qui s'est créé par-ci. On a quelques grosses startups internationales, mais on n'a pas réussi à construire un terreau favorable. Et on tire parfois quand même le tapis sous les pieds de certaines startups qui sont... En fait, en France, on a un problème de culture d'investissement aussi. Beaucoup de startups très prometteuses qui auraient pu se lancer à l'international disent on s'est pris les pieds dans le tapis au moment, on va dire, de l'afflux d'argent dont on a besoin pour vraiment passer à l'international. Hein, qui se compte en beaucoup, beaucoup de milliers d'euros. Là, généralement, les investisseurs européens, ils sont plus là. Et c'est pour ça qu'autant de boîtes dans leur croissance, il n'y en a pas beaucoup à part Spotify qui ont réussi à rester un peu européennes. Il y en a beaucoup, du coup, elles se revendent aux États-Unis, quoi. Sauf Airbus qui marche bien. Oui, Airbus, d'abord, t'as pas connu les années problématiques d'Airbus. Là, je parle vraiment au niveau des startups technologiques qui pourraient percer dans le monde. Les Américains, par leur puissance financière, peuvent racheter des pépites européennes sans mal. Oui, on a un vrai problème en Europe. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup d'économistes. On a un vrai problème sur l'investissement. On a un problème d'investissement. Et entre guillemets, on a un problème global d'appétence. Comme on a un rapport conflictuel avec nos entreprises et qu'on a un rapport conflictuel avec l'enrichissement, d'une manière générale, qui est toujours négatif, vu par notre culture judéo-catho, l'enrichissement est un péché. Je schématise, hein, mais quand même, globalement, c'est un problème culturel. Alors que du côté protestant, les États-Unis, l'enrichissement est vu comme une bénédiction divine. Dans nos cultures judéo-catho européennes, l'enrichissement est vu comme une damnation. Alors vous allez me dire, l'Europe, elle est plutôt l'Allemagne est plutôt protestante. Les résultats économiques de l'Allemagne sont plutôt pas mal, on va dire, pour l'Europe. Voilà. Spotify est suédois, ouais. Oui, c'est pas vraiment européen, hein, dans un sens. Doctolib, non mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des grands succès européens dans les startups. Il y a des trucs qui marchent très bien. Je parle d'un truc qui aurait la puissance planétaire d'un GAFAM. En fait, voilà, j'aurais dû commencer par là. Pourquoi en Europe, on n'a pas réussi à construire des GAFA? Pourquoi on n'a pas les mêmes problèmes que les Américains avec leurs GAFA? J'aimerais bien qu'on ait les mêmes problèmes quelque part. Oui, l'Allemagne est la troisième puissance économique, ouais. Oui, tout à fait. En France, t'as une belle voiture, on te la raille. Ouais, aux États-Unis, t'as une belle voiture, on te félicite. Tout à fait, ouais. Mais bon, après, chacun ses analyses, mais je pense que ça vient de racines culturelles. J'ai pas parlé de religion, hein. J'ai parlé, nos racines judéo-catho en Europe et les racines protestantes dans d'autres pays ou l'anglicisme en Angleterre, l'anglicanisme. Ouais, les anglicans, anglicanis, ouais, bref, ou protestants en Allemagne. Je pense que ça a donné, notamment dans notre rapport à l'argent, la richesse, l'investissement, la culpabilité aussi, on a quelques freins, ouais. Oui, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je le sais très bien qu'une des plus grandes fortunes mondiales, c'est un Français, le groupe LVMH, L'Oréal. On a des gros succès français ou européens. On a bien évidemment, on a des très belles entreprises. Je reste dans la tech là. Je parle de la tech. Pourquoi on n'a pas réussi à construire un Microsoft, un Google, un Facebook ou quelque chose comme ça? On peut se poser la question, on a le droit de se poser la question. Et qui investirait, comme Apple, des milliards de dollars dans l'économie? Ça serait cool, quoi. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est une expression hein, quand on dit culture judéo-catho. Je sais très bien, un des problèmes notamment, les cathos ne pouvaient pas prêter de l'argent, les juifs prêtaient. Ça a été le début des gros problèmes, on a commencé par Venise. Quand tu empruntes de l'argent à quelqu'un et que tu ne peux pas le rembourser, bah, un bon moyen, c'est de l'exterminer. C'est horrible, mais... c'est une en tout cas d'analyse du problème des premiers ghettos juifs, c'est à Venise, et c'était lié à l'emprunt d'argent, aux Lombards et aux Juifs. Tout à fait. Merci Rose pour ton prime. On part loin, hein. Là c'est très très culturel. Hein. En fait, les cathos n'avaient pas le droit de prêter de l'argent parce que l'argent appartenait à Dieu. Pas l'argent. Le temps appartient à Dieu, donc tu n'as pas le droit de faire de l'argent sur le temps. Donc, il n'y avait que les Juifs et les Lombards qui prêtaient à crédit en Europe. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les racines de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'économie. Et c'est une habitude très ancienne de stigmatiser ses créanciers. Voilà. Si on avait un Apple européen, on aurait tué avec des impôts et des grèves aussi. Société Poire, 90e jour de grève, nous ne sortions... L'ordinateur à manivelle n'est plus très innovant. Non, vous voyez, ça c'est très français. On se moque potentiellement d'une entreprise, si elle était française, elle serait forcément catastrophique. Ça c'est bien une vision qu'on a dans la... Vous voyez, moi aussi... voilà, en tout cas, c'est parti dans les débats dans la chatroom. Hein. Allez, on continue parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il est déjà 9h54. Il est temps, hein, puisqu'on parle d'économie, eh ben, il est temps de parler de nos sponsors. Comme je vous l'ai dit hier, nous, on est vraiment ravis d'avoir deux sponsors maintenant pour l'émission, avec un nouveau sponsor qui nous a rejoint. C'est Pritel. Je vous ai expliqué hier pourquoi Pritel. Bah, il y avait quelque chose de sentimental presque pour moi avec Pritel, parce que c'est une marque et des gens, notamment des gens derrière la marque que je connais depuis très très longtemps, puisqu'ils nous ont également aidés à l'époque de No Watch en devenant sponsor. Donc il y a une dizaine d'années. Preuve de leur solidité, ils sont toujours là. Pritel, c'est l'opérateur engagé sans engagement. Ils ont décidé de nous rejoindre et de croire en l'émission, hein, de faire partie des sponsors de l'émission avec ExpressVPN, dont on reparlera. Je voulais vous expliquer un petit peu comment fonctionnaient les forfaits Pritel aujourd'hui, puisque c'est un opérateur téléphonique, enfin pour smartphone. Comme je vous l'ai expliqué hier, c'est vraiment des forfaits SFR ou Orange. Vous choisissez au départ, est-ce que je veux être chez SFR, est-ce que je veux être chez Orange, et après, Pritel devient votre opérateur, mais vous avez un véritable réseau SFR ou Orange. Alors, comment ça fonctionne? En fait, comment Pritel arrive à faire que vous ne payez que ce que vous consommez? Ah bah tiens, on a Eric Tech qui nous dit depuis 3 semaines, il est chez Pritel et ça fonctionne bien. Merci pour ton témoignage. Vous voyez qu'en fait, vous allez comprendre. Vous avez 3 forfaits. OK? Le petit, le grand, le géant. C'est simple. Vous avez trois forfaits avec un prix de base. Ça commence soit à 4,99€, soit à 9,99€, soit à 12,99€. Ça, c'est les prix de la première année. Hein. Comme tous les forfaits, c'est un peu moins cher la première année. Et puis, c'est plus cher à la fin, à la date anniversaire, hein, comme tous les forfaits. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Yep. Je voulais pas aller aussi vite. Voilà. En fait, une fois que vous êtes dans votre forfait, par exemple, imaginez, vous avez pris le petit. Le petit, en fait, vous allez payer ce que vous consommez en data. C'est-à-dire que si, par exemple, on est au mois d'août, et au mois d'août, vous avez très peu utilisé de data, parce que bah vous avez pas pris votre smartphone en vacances, ou alors le pays où vous étiez, il n'y avait pas de data, ou je sais pas quoi. Imaginons, vous avez fait que 5 gigas de data en août. Bah, vous allez payer que 4,99€. Imaginez qu'en septembre, c'est la rentrée, il faut envoyer des photos à la famille, des vacances que vous avez fait et tout. Et là, par contre, vous tapez sur les 20 gigas. Bah, là, ce mois-là, vous allez payer 9,99€. Et ainsi de suite. Donc, au début, il faut que vous décidiez. Et ces prix-là, en plus, à l'intérieur des étapes, en fait, ces prix-là varient aussi selon le marché, parce que c'est le but de Pritel, c'est toujours de vous faire payer le prix juste. Donc eux, ils achètent en gros des unités de consommation, de communication à SFR et à Orange, et ensuite ils vous les débitent au prix le plus juste possible, puisque eux, c'est leur positionnement, avoir le prix le plus juste. Donc ces prix-là vont aussi varier. Donc c'est vraiment un forfait qui est adapté pour les gens qui en ont marre de payer toujours la même somme tous les mois, en se disant qu'ils gâchent une partie de leur forfait, que en fait ils utilisent pas tout leur data de manière régulière et que il y a du gâchis en fait. Vraiment les forfaits Pritel, c'est un peu comme quelque chose qui suivrait au plus près possible, tout en gardant des formules assez simples, qui suivraient au plus près possible vos consommations. Donc pour quelqu'un qui a des consommations irrégulières, ou alors pour une SIM que vous voulez pour quelqu'un de votre famille, un enfant par exemple, vous voulez contrôler ses consommations, vous décidez en prenant le forfait au début quelle marge de data vous voulez, soit 0, soit 20 gigas, soit entre 0 et 20 gigas, c'est le petit, entre 0 et 80 gigas, c'est le grand, et le géant, c'est entre 0 et 200 gigas. Donc voyez, vous décidez en fait de vos marges, enfin de comment dire, pourquoi j'ai en tête le serpent monétaire européen, en fait voilà, c'est vos limites. Vous dites, je suis un gros consommateur, il me faut le forfait de 200 gigas, je prends le géant, ça va me coûter au minimum 12,99€ par mois, 13€ par mois, au maximum ça me coûtera 23€. Mais au moins, les mois où je dépense moins de 100 gigas, ça me coûtera que 13€. Et c'est ça qui est cool. Donc, nous, on vous conseille de vous intéresser, hein, Pritel. Déjà, allez voir. N'hésitez pas à aller leur poser des questions. Nous, on organisera peut-être un live avec eux. Pour répondre un petit peu à vos questions, parce que c'est normal hein, d'avoir des questions de cet opérateur, tout le monde n'en a pas entendu parler, c'est pas un opérateur qui a la fame des grands opérateurs ou de leurs filiales. Ils font pas une publicité monstrueuse, Pritel. Ils font une publicité plus ciblée. Ils nous font confiance à nous pour faire leur publicité. Ils ont un côté discret dans leur culture, parce que justement, ils veulent pas vous faire payer le prix du marketing non plus. Alors, ils font quand même du marketing. Et on est quand même payé pour faire de la pub. Enfin, j'espère. Faut que j'en parle avec Cédric. Mais voilà, ils vont pas vous faire payer une grande campagne de pub, machin, quoi. J'ai lu pas mal de retours négatifs avec des consos fantômes avec d'autres pays facturés. Alors, comme d'habitude, là, je suis pas en train de te dire que c'est vrai ou pas vrai, mais lisez bien les conditions, ce qui est dans le forfait ou pas dans le forfait. Parce que des histoires de dépassement, il y en a chez tous les opérateurs. Jérôme, mes parents ne veulent pas me payer un forfait 4G, j'ai le free à 2,99. Tu veux pas me prendre le Pritel le grand ? Nat, tu es en train de me demander sérieusement que je paye tes consommations. Sérieuse, tu vois, j'en rate ma table. Est-ce que tu es en train de me demander sérieusement que je paye ta facture de téléphone, en fait ? Sérieusement ? Vraiment ? Vous croyez qu'il y a quoi, là, dans les tiroirs ici ? Vous croyez que c'est des billets qui débordent ? Qu'on a une machine à cash ? En vrai, il faudrait que tu l'adoptes, s'il te plaît. Ouais. Jérôme prend un accent sicilien quand tu dis ça, ouais. Je veux bien un abonnement de Netflix, ouais. Tu veux aussi, j'allais dire un truc très vulgaire. Vous voulez un milkshake et des frites aussi, là, avec votre mug? Salut Lunaire, pour les questions comme ça, plutôt à la fin de l'émission, on a une rubrique spéciale où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Non mais si vous voulez, hein, je rebaptise la chaîne, hein, je vais l'appeler Moulatech et puis la Moulatech ou la New Moula, parce qu'on n'est même plus obligé de parler de tech. La New Moula, très bon nom de chaîne. C'est parti. Et je vous paye des trucs en fait. je vous offre des Tesla, mais tout ce que vous voulez. Mais, c'est pas de l'argent tout ça. Pas de problème, Lunaire. Tu loues combien ton yacht pour tout l'été ? Je vous le donne. Demande plus ça demain, Guillaume. Le moule à gaufre. Ah, vous êtes bon. Vous êtes bon, vous êtes bon. En tout cas, un grand merci à Pritel de nous faire confiance. On remercie également ExpressVPN. Marion vous parlera demain d'ExpressVPN. On a décidé, voilà, de faire des focus Pritel plutôt lundi, mardi, vendredi. Et des petits focus ExpressVPN le mercredi et le jeudi. Mais attention, on risque de changer pour pas que vous vous habituiez aux choses. Voilà. On vous a mis tous les liens pour aller chez Pritel et vous les retrouvez, et ExpressVPN, et vous les retrouvez dans les textes de ce replay si vous nous regardez ou vous nous écoutez en replay. Enfin, ceux qui sont en audio, il va quand même falloir faire l'effort de revenir sur Internet pour chercher ces putains de liens. On précise d'ailleurs que c'est pas des liens affiliés, hein, qu'on a avec Pritel. Autant ExpressVPN, oui, c'est des liens affiliés. Mais Pritel, je vois que tu as écrit il y a un filier. Faut que je reprécise avec Cédric, mais on ne prendra pas de commission si vous passez chez Pritel, en fait. Normalement. Hein. Je vais reconfirmer ça avec Cédric. Mais je crois pas qu'on ait de commission. On a des commissions quand vous vous abonnez à ExpressVPN, mais pas chez Pritel, je crois. Voilà. Allez, on va passer à la tartine. La tartine, c'est pas encore là où vous pouvez poser des questions. Ça vient après, c'est les camps de fac. Avant de commencer la tartine, je voudrais remercier Melzébuth pour ton 4 mois, Bipascal pour ton 7 mois, Heroes pour ton 6 mois, Maoris379 pour ton 1 mois, Jinaye pour ton 2 mois, Sylvain Delou, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton 1 mois, Braxoxv, pour ton premier prime, ton premier mois. Merci Flo645 pour ton prime de 6 mois. Et merci TDuncan18 pour ton premier prime également. Bienvenue dans la famille. Qu'est-ce que le défi This is the way? Ben, vous le saurez a priori bientôt parce que j'ai l'impression qu'on y est presque. Hein, je sais pas où on en est. Mais vous allez bientôt le savoir. This is the way, ça n'arrête pas d'augmenter. Et on n'est pas du tout prêt. Vous attendez pas non plus un truc de fou, hein. Guillaume a vachement fait monter la sauce et tout. Je voudrais pas qu'il y ait des déçus. 85, on est à 85% déjà du défi This is the way. Allez, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, je vous invite à lire cet article de Vice qui s'appelle « En fait, tout le monde s'en fout de ses données personnelles ». Avec en sous-titre la citation de quelqu'un qui dit « Je n'y pense pas, j'utilise Hotmail depuis 20 ans et Facebook depuis ses débuts, je suis fataliste, je me dis qu'il est trop tard ». Je voulais vous faire cet article. Je sais que certains nous reprochent de trop parler de vie privée. Certains nous disent qu'ils n'ont rien à cacher. Certains nous disent de toute façon c'est trop tard. Il y a un certain fatalisme autour de la vie privée et il y a une chose que je voudrais pas. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Guillaume. C'est pas parce que... D'abord, c'est pas parce qu'on vous parle de la vie privée qu'il faut faire attention que nous-mêmes, on est irréprochable. Loin de là. Guillaume est plus attaché que moi à vie privée. Mais alors, moi, je me vautre dans Google. Hein, je vous le dis, je suis comme un cochon dans sa fange. J'utilise énormément de services Google. Hein. En fait, voilà, avant même de vous faire l'article, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Le plus important dans ces histoires de vie privée, c'est d'abord d'être conscient. D'être conscient de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on, nous, on pense que c'est notre mission aussi d'expliquer les choses pour que juste vous ayez les yeux ouverts. Nous, ce qui nous énerve le plus, c'est l'enfumage. C'est la pub cachée. C'est le « Ah, mais oui, c'est gratuit. Prends, mon enfant, prends, c'est gratuit. Tu vas voir, c'est bon, machin. » Ça, on n'aime pas. C'est pour ça qu'on tient à vous dire, et on vous le répétera toujours, non, c'est pas gratuit. C'est gratuit, c'est toi le produit, c'est la version résumée et un peu simpliste des choses, mais c'est plutôt vous payer, d'une manière ou d'une autre, vous payer. Ne croyez pas que c'est gratuit. Ne croyez pas que, ça je le redis souvent, parce que il y a une naïveté autour de ça qui me... qui... le postérieur... Ouais, les influenceurs sont généreux. Ils m'ont fait gagner un iPhone. Non, ils sont pas généreux. Non, c'est une opération publicitaire. Pas du tout généreux. Et c'est de la collecte d'informations. C'est une manière en plus pas chère pour les marques de faire de la pub. Ça veut pas dire que tous les jeux concours sont à jeter. Mais ne croyez pas que les jeux concours sont des générosités qui vous sont faites. Les gamins qui me traitent de radin parce que je fais pas de jeu concours et je fais pas gagner les produits, ça me fait toujours mourir de rire, quoi. Comme les jeux concours et les prix d'accès au concours, j'ai l'enregistrement de ton mail, par exemple. Oui, alors, non, les marques ne créent pas des fichiers avec le mail des gagnants. C'est pas ça. Disons que quand vous faites de la communication, vous avez plusieurs priorités. Il y a de la notoriété, il y a de la vente, il y a du marketing, il y a du pas du marketing, de la promotion des ventes. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a de la fidélisation. Et un truc que tout con que fait les jeux concours, c'est que ça remet une marque, un distributeur à l'esprit des gens. Ah, j'ai gagné un iPhone, c'est grâce à tel influenceur qui a travaillé avec la Fnac. Vous savez, la répétition, ça vous énerve, mais il n'y a rien de plus efficace en publicité. Vous croyez que plus une marque répète, moins vous allez acheter? En fait, c'est faux. Toutes les études le prouvent. Je sais, hein, beaucoup, certains me disent, j'achèterai jamais chez Rhinoshield, chez tel ou tel VPN, ou chez tel ou tel truc, parce que c'est du rabâchage. Donc, ça m'incite à ne pas acheter chez eux. Peut-être pour certaines personnes, mais dans la globalité, le rabâchage marche très très bien. Et les jeux concours sont une manière de rabâcher les choses. Bien sûr, en plus, ça donne une image généreuse à la marque puisqu'elle vous fait des cadeaux. Moi, je dis, lâche rien, il va finir par craquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour offrir quelque chose de cher, il faut le produire pas cher. Ratio disque. Moi, un mentor dans mon métier, quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, disait, on ne donne jamais ce qu'on peut vendre. Attention à pas faire du spam, parce que le spam, tout ce que vous allez obtenir, c'est pas la mémorisation d'une marque, c'est un gros ban dans votre gueule. Merci Nicolas pour ton Prime, 4e mois d'abonnement. Bref, cet article, j'ai trouvé hyper intéressant. Je ne vais pas vous faire tout l'article, parce que vraiment, je vous invite à le lire. Il y a des témoignages de gens, et j'ai trouvé que c'était assez croustillant. Lucille qui dit « Ça me dérange que des gens gagnent de l'argent avec ma vie privée, même si c'est en totale contradiction avec mon manque d'implication sur le sujet. » Google, c'est plus confortable, c'est plus pratique, c'est plus intuitif. On a tous plus ou moins installé DuckDuckGo sur notre smartphone, mais au bout de 2 recherches infructueuses ponctuées de 5 insultes, Dixit, si vous maîtrisez mal l'anglais, Google vous donnera la béquille en 10 secondes. Le confort, ils ont construit des super produits, Google. Faut pas l'oublier. Et en fait, ce que dit notamment, c'était un peu plus loin dans l'article. Ça, c'est drôle. Le témoignage d'une utilisatrice. Ok, j'ai bien compris tous les enjeux derrière, explique Océane, 24 ans. Mais je reste une brêle. J'ai un mot de passe unique. Je me fous de ce que récolte Google. Je suis même un bon gros pigeon. J'aime recevoir des pubs ciblées. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet article, c'est qu'on est tous un peu Océane. On est tous un peu Lucille. Personne, à part Snowden peut-être, mais lui c'est pour des raisons de vie ou de mort, personne n'est irréprochable là-dessus. Mais est-ce que le plus important, c'est pas déjà d'être conscient de ce qui se passe et d'être en réaction et de dire c'est pas parce que ça est... Moi, en fait, je pense, dans les témoignages les plus inquiétants de cet article, c'est plutôt le fatalisme qui m'inquiète. De dire, oh, de toute façon, on peut plus rien faire. C'est déjà comme ça. On peut plus rien faire. Je pense pas. Je suis pas d'accord avec ça. Je pourrais jamais être d'accord avec ça. Le fatalisme est un poison encore plus corrosif que la peur contre le courage. Le fatalisme, et je sais, là aussi, c'est très européen, hein, le fatalisme. Oh, de toute façon, on ne pourra rien faire. Nous ne sommes que des gouttes dans l'océan. Des gouttes d'eau dans l'océan. Ouais, bah, il est fait de quoi, l'océan? De gouttes d'eau? Crétin. Je ne suis pas océane, Alex. Elle accepterait dans un monde fasciste. On est tous un peu Océane. J'ai pas dit tout le monde a ses différents critères, mais avouez aujourd'hui, Guillaume vous l'a même montré dans la vidéo où lui, il a essayé de ne pas utiliser Google pendant un an. À quel point c'est difficile. Et aujourd'hui, ne pas aller sur Google est un choix quasi politique, idéologique. Et c'est même militant, ça demande énormément d'efforts. Ça demande de se priver beaucoup de confort. Ça demande de passer pour un fou. Et Guillaume le dit, c'est vraiment un handicap dans certaines situations, dans le monde dans lequel on vit. Et ben Guillaume est là. Guillaume qui avoue qu'il est un gaucho. Ouais, mais t'es un gaucho de droite, en fait, Guillaume. T'es un gaucho froid. Pas d'Android, du coup, si pas Google. Naotech, la chaîne des gauchos de droite, exactement. On est les extrêmes du centre. Nous, on est comme ça. Ne pas aller sur Google, c'est handicapant aujourd'hui. Suffit de ne pas mettre sa vie privée sur les réseaux sociaux. C'est plus complexe que ça, Saturax. C'est beaucoup plus complexe. En fait, le problème de la vie privée, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez le problème de la vie privée à votre niveau individuel. protéger votre vie privée. Et ça, c'est relativement simple à faire. Moi, c'est un exercice que je fais de plus en plus. Mon nouvel appartement, vous ne saurez pas où il est. Ce que je mets sur Instagram, c'est de moins en moins ma vie. C'est de plus en plus, on va dire, le personnage Jérôme de Nowtech. Mes barbecues aux victimes, vous n'aurez pas de photos. Voilà, ça, c'est le protéger votre vie privée au niveau individuel. Le problème des GAFAM, de la vie privée, de la publicité ciblée, etc., est plus complexe que ça et dépasse votre petite personne. Mais vous en êtes responsable aussi. Le problème, ils sont multiples. D'abord, il y a la polarisation du web. À force d'avoir construit des algorithmes qui favorisent l'appétence qu'on a pour aller sur tel ou tel site et y rester, à construire des bulles de réalité pour certaines personnes, des stigmatisations de communautés qui n'existaient pas avant, une sclérose politique d'articulation entre des camps qui étaient adversaires avant mais qui fonctionnaient sur des principes démocratiques, on sont en train d'arriver à des scléroses de clivages politiques qui entraînent des conflits antidémocratiques. Et on voit d'ailleurs l'émergence de partis de moins en moins démocratiques qui commencent à avoir pignon sur rue, de moins en moins républicains. Et oui, j'ai peur. Voilà, je vous le dis. Ça suffit pas d'avoir peur, il faut agir. Mais je vois des trucs qui ont des relents des années 30 en ce moment, mais ça me donne des suées, quoi. C'est une opinion personnelle. Attaquez-moi si vous voulez, mais je vous le dis, j'ai des suées en ce moment. Voilà. Et je pense que Internet et du fait d'Internet, les algorithmes qui nous amènent un certain type de contenu ont enfermé des gens, ont polarisé Internet, ont enfermé des gens dans des réalités confortables, avec des réponses simples à des problèmes complexes, des gens qui avaient des peurs et des angoisses tout à fait légitimes, eh ben, on sont récupérés aujourd'hui par ces bulles de réalité qui leur apportent des réponses simples à leurs problèmes complexes. Mais les réponses simples sont extrêmement dangereuses. Voilà. J'ai même ressenti que toi, Jérôme, pour le coup... Ah oui, non, moi, je vois des trucs... En ce moment, j'hallucine complètement. J'entends des propos, je vois des trucs. Waouh ! Pourtant, c'est pas vieux les années 30. Hein. C'est pas vieux. Hein. Franchement. Hein. Oui, oui, il y a de la répétition de batterie à côté. Hein. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de sous, nous. Notre atelier est à côté d'un atelier dont personne ne voulait, parce qu'il y a un atelier de répète de musique à côté. Personne ne voulait de cet atelier. Donc oui, désolé si mes discours sont rythmés par une batterie. Mais tu as connu les années 30, enfoiré. Attention, hein, l'agisme est une forme de stigmatisation dangereuse. Il y a un député pas longtemps écologiste qui en a fait les frais de balancer de l'agisme. L'État français et les grands groupes français revendent nos données de manière bien plus honteuse que Google, sans anonymisation. T'as des dossiers là-dessus, Yogis, ou c'est juste un truc que tu prononces comme ça? Tu sais que c'est insonorisé, hein, déjà. Et insonorisé, mastoc. Mais de la batterie, ceux qui font de la batterie le savent. Ça s'insonorise pas. Le jeunisme également est une stigmatisation, oui. Faute de pouvoir aller au théâtre pour une pièce comique, j'écoute. Bon, c'est en train de partir sur la politique, c'était pas le propos. Vraiment, le propos, c'était de dire, nous, avec Guillaume, on vous informe de beaucoup de choses sur la vie privée. Peut-être qu'on y allait un peu fort ces derniers temps. Notre principal but, c'est que vous ayez les yeux ouverts. Enfin... Le but, genre, on n'est pas en mission, non. Enfin, si, un peu quand même, on est en mission. C'est le truc le plus important. On n'attend pas que... on va pas vous dire « Oh là là, t'es pas passé sur Linux ? Quoi, tu utilises encore une recherche Google ? Vilain, vilain !» Non, on n'avancera pas comme ça. Le plus important, c'est qu'on reste vigilant, c'est qu'on ait les yeux ouverts et qu'on se laisse pas faire non plus. Nous avons le droit de... Nous avons un pouvoir aussi sur les GAFAM. Il faut pas croire que... C'est sûr qu'ils nous ont fait des pommes d'ailleurs, c'est un bon exemple. Ils nous ont apporté des fruits extrêmement appétissants, très confortables, très sucrés, très bons, gratuits, et qu'on a beaucoup de mal à lâcher ces trucs-là. L'idée, c'est pas forcément de les lâcher, mais c'est pas parce que ils ont fait ça qu'on doit leur dire, mais attendez, on vous a tout livré, pieds et poings liés, on est chez vous, on a vendu notre âme au diable. Non, on a le droit de réagir, de contester, d'aller chez un autre, et voilà. J'adhère à ton point de vue, mais pensez que Facebook avec WhatsApp, qui recule contre le tollé, mais finalement, va quand même faire passer ses condés. Alors, voilà, Facebook... En fait, là, c'est le prisme de la technosphère. Nous, on a l'impression que tout le monde est anti-Facebook. C'est pas le cas du mainstream. Et c'est pas le cas du monde. En fait, Facebook continue à recruter des nouveaux abonnés. Et encore aujourd'hui, la plateforme la plus utilisée. Comment faire passer un message quand... D'abord, il y a un certain nombre de messages qui commencent à passer au niveau de Facebook. Le fait qu'il soit passé quand même plusieurs fois devant le Sénat américain et que des amendes commencent à tomber. Il y a un moment, il n'est pas con non plus, hein, Mark Zuckerberg. Il voit bien potentiellement le long du chemin. Et c'est pas un hasard d'ailleurs s'il rachète des boîtes qui ont une meilleure image que Facebook. Instagram a une meilleure image que Facebook. Parce qu'il sait que voilà, sa marque va être mise à mal. Mais pour l'instant... Ben voilà, il continue d'avoir des utilisateurs contents, hein, Facebook. Mais c'est là où on a un prisme extrêmement déformant. C'est que parce que nous, on n'aime plus Facebook, on pense que le monde entier n'aime plus Facebook. Quand tu fais une carte grise, il faut une case à cocher pour pas que l'État revende tes données. Si tu le fais pas, tu peux recevoir des pubs ciblées. Alors, deux choses, Yougiz. Tu balances des trucs. Bon, très bien. Attention à avoir quand même des sources solides. Parce qu'on peut tout dire. Hein. Tout. Moi, je sais que la troisième caissière de mon supermarché, elle travaille pour l'espionnage russe. Je le sais. Je le sais. Je le sais. C'est... Tout le monde le sait dans le supermarché. Tout le monde le sait. Ah bon, toi aussi. Déjà, première chose. Deuxième chose, tu parles de carte grise, mais tu sais peut-être pas, mais moi qui ai travaillé justement dans la pub aux années 90-2000, la Poste revend ses fichiers bien avant qu'Internet existe. La Poste revendait tous vos fichiers, vos adresses aux publicitaires et avec des recoupements d'adresses comparés à des cartes de catégories socio-professionnelles géolocalisées. On pouvait très bien savoir un niveau de revenu par rapport à ton adresse. Tu peux pas imaginer le nombre de trucs par déduction déjà qu'on peut trouver avec ton adresse postale. On peut déterminer avec des pourcentages d'erreur ton revenu, ta catégorie socio-professionnelle, donc ton âge moyen, ta situation de famille, selon statistiquement les tailles des logements qu'il y a à tel ou tel endroit. Et ça, la Poste vend les fichiers. Et ça, on s'est jamais rebellé contre la Poste qui vendait les fichiers aux publicitaires depuis... je pense qu'elle revend ça depuis les années 50, quoi. Et la pub moderne, on va dire. « La poste a le droit de lire le courrier si l'adresse est illisible. Ah, je savais pas ça. Je me suis toujours méfié de cette caissière, de toute façon. T'as raison. La troisième, elle est dangereuse. Allez! En tout cas, voilà. Je vous invite à lire cet article. On est parti un peu dans tous les sens. C'est pas exactement là où je voulais aller. Mais on va dire que c'est le propre. Donc, Vice, cet article, en fait, tout le monde s'en fout de ses données personnelles. J'aime bien le titre parce qu'il est un petit peu provoque. On va passer à la dernière rubrique de l'émission parce qu'il est déjà un petit peu tard. On lance les camps de fac. Si vous avez des questions, je vais peut-être y répondre. Je pourrais pas répondre à tout le monde. Les camps de fac, est-ce que vous avez des questions? Oui, mais en vrai, Jérôme, la Poste, c'est une société privée, pas l'État. C'est pas faux. Mais je pense que la Poste, même quand c'était pas privé, revendait aussi ses fichiers aux publicitaires. Alors, attendez, ça va tellement vite dans le chatroom, je suis obligé de passer à mon deuxième tableau où c'est écrit plus petit. Les cartes de fidélité, c'est pareil. Tout à fait, c'est du tracking, les cartes de fidélité. C'est pas des cadeaux qu'on vous fait en vous disant, oh, vous avez 7 euros cumulés sur vos, c'est vachement bien, on me fait des cadeaux chez, non. D'abord, la fidélité, c'est du tracking, mais surtout, la fidélité, c'est de la fidélité. En te bloquant avec un système de points de fidélité, on te scotche, à une enseigne. Jérôme, c'est normal que tes objets bougent chaque coup de grosses caisses. On n'en est pas encore là, mais pas loin. Je ne vais plus regarder ma caissière comme avant. De toute façon, maintenant, c'est nous les caissières. Mais, c'est un très beau métier. Je ne suis absolument pas en train de me moquer, quoi que ce soit. Mais, j'avoue, et là, c'est peut-être mon côté vieux con, mais j'avoue qu'au supermarché, de devoir biper moi-même mes produits... Pourquoi on ne me paye pas pour faire ça? Pourquoi on ne déduit pas de mon panier le salaire économisé par l'entreprise? Parce qu'en gros, moi, je travaille gratuitement quand je scanne mes produits. Mais bon, je suis un vieux con. Voilà. Après, moi, j'ai rien contre qu'on scanne d'un coup avec un système puissant NFC tout le contenu de mon caddie et je sors du magasin, hop, ça paye automatiquement. Ça va être le rêve. J'ai essayé l'autre jour pour voir si ça marchait. J'ai pris un caddie entier. J'ai foncé vers la sortie. Ça s'est très, très mal terminé. Hein. On ne sait pas encore au point. c'est un peu comme les... Alors... Ça marche une fois, deux. Hein, faut payer. Laissez peut-être de la place, là. C'est bien qu'on continue les débats, mais je sais que certains avaient des vraies questions tech. Si vous avez des vraies questions, il est déjà 9h29. On va rester 5 minutes. Monsieur Greu a annoncé ce matin dans une vidéo YouTube qu'il allait faire une émission d'une heure portée sur les sujets tech tous les jours à 11h dès mercredi. Un peu comme toi, du coup. Non, je suis pas au courant, mais écoute, c'est très bien. Decathlon, ils ont des puces dans chaque étiquette. Oui, ça va venir, hein, je pense, le paiement comme ça. Puis-je te demander ce que tu penses du navigateur Brave et surtout si c'est bien safe? Faut que tu poses la question à Lunaire. Pose la question à Guillaume jeudi. Il te répondra bien mieux que moi sur Brave. As-tu un NAS de marque QNAP? Si oui, est-ce que tu te fais attaquer par le ransomware week-end dernier? Non, j'ai pas de NAS QNAP. Il fonctionne encore le Nabastag? Non, il ne fonctionne plus. Je veux numériser mes diapos. Quelle marque conseilles-tu? Je connais pas du tout. J'ai pas de diapos, moi. Je sais, hein, je parais vieux comme ça, mais j'ai jamais connu, enfin, j'ai jamais utilisé de diapo. Donc, des scanners de diapo, j'ai aucune idée de quoi te conseiller. Peux-tu donner l'adresse de l'article sur la vie privée? Je vais essayer. Je vais voir si ça marche. Si je le colle là. Oui, c'est bon. Voilà l'adresse de l'article sur la vie privée. On a une date pour la sortie d'iPad 14.5 pour la prise en charge de script en français. Non, mais ça devrait pas tarder, je crois. Tu penses quoi des NAS avec HDD intégré, Jean, les... on l'a testé sur la chaîne, hein, les Western Digital Cloud. On a testé un truc un peu comme ça. Donc, Biscuit, tu peux aller voir la vidéo. J'ai revendu mon G9 quand je vois à la vitesse qui baisse. Ah oui, ça, ouais. Faut jamais re-regarder le prix de ce qu'on achète après l'avoir acheté. Il n'y a pas que CNET qui fait un article dessus. J'ai pas compris. Pour les diapos, j'ai utilisé Forever, le site. Ils le font pour toi, d'accord. Tu as envoyé toutes tes diapos. Donc, un site qui s'appelle Forever et tu as l'air content, la Wash. Alternative à Photoshop, je suis pas très fort sur le sujet. Ça va souvent être à ma réponse, hein. Mais je préfère être franc. Je pourrais vous dire, parce que je connais des alternatives, mais je les ai jamais vraiment testées. Donc, qui je suis pour parler de choses que je ne connais pas? Luminar, oui, on en a parlé sur la chaîne, c'est vrai. Jérôme, que penses-tu du Canon RP? Je l'ai pas testé. Donc, j'ai que des opinions de loin. Canon fait certaines choses très bien. Après, je trouve peut-être un peu cher. La mise à jour de l'iPad est sortie hier, on nous dit, ok. Moi, comme je suis en bêta, je ne les vois pas, les sorties. Hein. Le scan du touche Ario, ça existe, ouais, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ferez-vous un live pour le Galaxy Unpacked? On risque d'avoir un problème, il faut que j'en parle avec Guillaume. Pour rien vous cacher, en ce moment, je suis en plein déménagement travaux. J'ai des gros problèmes à organiser mon boulot. Hier, j'étais pas là de la journée et tout. Jeudi, ça risque d'être un. Je sais pas quel. C'est jeudi déjà le truc Samsung. Au pire, on en parle le lendemain matin dans le mug. Voilà. C'est mercredi. Ça t'arrive d'avoir une envie pressante? En live, oui. Ça m'est arrivé d'avoir envie de pisser, ouais. Il y a un magasin Amazon. Ouais, t'as pas à passer en caisse, ouais. Tout à fait. Ils sont en train d'expérimenter tout ça. Est-ce judicieux de prendre l'iPhone 11 en 2021? Oui. Conseil APN, vaut-il mieux un bridge milieu haut de gamme? On n'aime pas les bridges sur la chaîne. On n'est pas très bridge. Je pourrais pas vraiment te conseiller. J'aime pas beaucoup. Pour moi, un bridge, autant prendre un smartphone. Mais c'est mon opinion. Les bridges ont souvent des capteurs assez petits, sauf quelques exceptions chez les bridges. Donc, si tu veux vraiment faire le saut entre un iPhone et de la photo avec boîtier dédié, je te conseille plutôt de passer réflexe ou hybride. En tout cas, appareil à objectif interchangeable. Amazon Go, c'est super. J'ai testé ça à Seattle en 2018. D'accord. Ça marche bien, donc. Que penses-tu du Sony A7C? Très bonne bécane. Tu aurais un conseil, très bon boîtier. Tu aurais un conseil pour une barre son? Ah! Bientôt! Bientôt, Barry Alien. Essaye de tenir encore une ou deux, trois semaines le temps qu'on finisse. Mais on aura des conseils sur les barres son. Marion a testé Boursorama Banque. Donc, faut plutôt demander demain à Marion. Que valent les derniers smartphones Sony? On les a pas testés. Je peux pas te dire. Non, hybride, c'est là où les appellations sont, d'une certaine façon, un bridge peut être un hybride aussi. En fait, hybride, ça veut simplement dire qu'il y a plus de miroir. et que tout est électro, tout est informatique. Dans un réflexe, il y a un miroir, il y a encore des parties mécaniques. Voilà. Crois-tu prochainement une version de macOS ou un iPad plus poussé pour exploiter la M1? On en a parlé en début d'émission, Sloan, de tout ça, justement. Pourquoi sur les iPads, il n'y aura jamais de macOS? La réponse d'Apple, en tout cas. Quand arrive la nouvelle version d'Apple Podcast? Je sais pas. Une date pour iOS 15 et des nouvelles choses de prévues. Vous croyez vraiment que j'ai la ligne privée de Tim Cook et qu'il va me donner toutes ces infos à moi? Déjà qu'il me prête même pas de produits, même pas de pré-presse, hein? Ça, hein? Privé de chipo. Prochain barbecue. Jérôme, il est l'heure. Ouais, allez, je vais devoir vous quitter. Demain matin, vous retrouvez... Alors, deux choses très importantes. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder le replay sur YouTube, le replay de toutes les émissions, pensez à bien vous abonner à la playlist des replays, parce que bientôt, les replays complets ne seront plus disponibles sur la chaîne YouTube, en tout cas en public, et seront toujours là, mais juste dans la playlist. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette playlist, je vous avais montré hein, où était cette playlist. Je vais refaire très rapidement parce qu'il y en a qui vont être perdus. Hop, vous allez sur cette chaîne-là. Attendez, je vais sur notre chaîne. Ah, mais merde, il fallait que j'y aille. Pardon. Si, par YouTube, c'est bon. Alors, vous allez sur la chaîne... Le mug, est-ce qu'elle est déjà référencée sous le mug Nowtech? Ouais. Voilà, vous allez sur cette chaîne, ok? Le mug, ex-chaîne Nowtech Replay. Vous allez dans les playlists, ok? Vous, dans les playlists, il y a une playlist, voilà, qui s'appelle le mug Nowtech Replay officiel. Et là, vous mettez la cloche. Hein, vous abonnez. Vous abonnez. Ça sera la seule manière de recevoir le lien est aussi dans la description du replay. Voilà, on vous met aussi le lien dans la description du replay. Donc ça, c'est important pour ceux qui ont l'habitude de regarder le replay sur YouTube. Abonnez-vous à la playlist. C'est très, très important parce qu'on va pas tarder à rendre les replays non publics. Voilà. Le lien aussi dans la description. Voilà. Merci Samuel. Deuxième chose à vous dire, demain, c'est Guillaume. Non, demain, c'est Marion. Jeudi, c'est Guillaume. Et moi, je vous retrouve vendredi. Je vous fais des gros gros bisous. Passez une très très bonne journée. On va faire un raid. Ouh, il y en a des choses à faire maintenant. Lancer un raid. On va faire un raid. On va faire un raid. Chez Velvet Shadow. Allez, Velvet Shadow, c'est parti. On l'avait déjà raidé, mais je sais, certains disent, on raid toujours les mêmes. D'abord, le matin, il n'y a pas tant de monde que ça. Et puis, nous, on raid les chaînes qu'on connaît. Alors, on essaie d'en découvrir d'autres à fur et à mesure. Mais croyez pas que le matin, il y a tous les streamers qui sont là qu'on puisse raider. Allez, je vous fais des gros bisous. Le raid sera lancé pendant le générique. Ciao.